C'est la deuxième heure de ce 1264e Sweet Home Chicago. Les invités sont au nombre de 7. Cette série d'interviews constitue le premier épisode de deux émissions consacrées au premier mois du blues à Pau en décembre dernier. Durant plus d'un mois, toute la ville de Pau dans le 64 se mobilisait pour célébrer les 100 ans qu'aurait fêté Jacques Morgantini, né le 21 février 1924 et décédé le 2 décembre 2019. À l'invitation de Monsieur le maire, devenu entre-temps Premier ministre, le mois du blues à Pau aura permis la concrétisation de l'amour des Palois pour nos musiques qui ne datent pas d'hier et qui perdurent, on l'aura abondamment constaté. Se succéderont au micro Stéphane Cochoyan, conseiller artistique de Jazz à Pau, Luc et Arnaud Morgantini, fils et petit-fils de Jacques Morgantini, Philippe et Armand Charlot, musiciens, conférenciers et scénaristes de BD pour le premier, le père, et puis Sébastien Loup et Michael Roudier de Silver Wolf Music à Lons, près de Pau. Des interviews parsemées de titres anciens ou récents, signés John Lee Hooker, Mississippi Fred McDowell ou T-Bone Walker, plus un titre inédit de Luther Snakeboy Johnson, capté en live à Pau en 1975 pour les légendes américaines. Et puis du côté des Palois, il y aura Miss Bee and the Bullfrogs, Nico Wayne Toussaint et Gladys Amoros avec Michel Foison. Grand merci donc à Jacques Gasser pour son aide précieuse. La seconde partie de cette rétrospective Blues à Pau sera diffusée samedi prochain, qu'on se le dise. On commence avec le premier artiste invité de toute la série des tournées Chicago Blues Festival en 1969, monsieur John Lee Hooker.
So glad when I get back to my home again. I'll be so glad I get back home again. Get back home, back home in the USA. I know my babe, she gonna jump and shout. Know my baby, she gonna jump and shout. Our plane hit the runway, hit the runway, hit the runway. I come walking out. I'd be so glad I get back in the USA. Be so glad get back in the USA. My airplane hit the ground, my baby, she gonna jump and shout. So good, I'm back in the USA. Feeling good, I'm back in the USA. I've been gone for a long, long time. Been gone, been gone for a long, long time. Shout. I know my baby gonna jump and shout. The airplane hit the runway. I come walking now back in the USA.
Le Nous sommes en 1969, monsieur John Lucas avec Get Back Home in the USA. Première interview de ce Blues Apo, première partie avec Stéphane Cochoyan, conseiller Jazz Apo et programmateur de la saison. Nous évoquons le mois du Blues Apo, le travail de Jacques Gasser, le réseau des médiathèques de Pau, le Chicago Blues Festival, né en 1969 sous la houlette de Jean-Marie Monestier, la mémoire de Jacques Morgantini et la scène blues paloise qui sera illustrée par un titre de Misby and the Bullfrogs. Je suis avec Stéphane Cochoyan, qui est conseiller artistique jazz sur la ville de Pau et à qui on doit tout ça finalement. Ce premier mois du blues à Pau, c'est en grande partie à cause de vous, entre guillemets.
Bonjour, disons que c'est surtout la médiathèque de Pau à qui on a suggéré cette idée et qui s'en est emparée. Et c'est vrai qu'il y a une vraie tradition de blues à Pau qui vient grâce à l'esprit Morgantini, à tout ce qu'il a apporté avec sa femme Jacques donc, et Marcel, à leur fils également qui était dans le coup, parce que quand on voit les films de Jacques Gasser, qui est le commissaire de notre exposition, et qu'on voit Luc derrière le Nagra qu'on a exposé là, en train d'enregistrer avec passion, avec tout l'amour de cette musique, voilà, ils ont amené à Pau quelque chose de très important. Et donc, en tant que programmateur de jazz à Pau, ben, c'est un héritage, parce que bon, Jacques Morgantini, il était fan de blues, mais fan de jazz aussi. Il a ramené ici Lionel Hampton avec Illinois Jacket, mais le blues, c'est la base de tout. C'est la base du jazz, bien entendu. Les grands musiciens de jazz devaient d'abord savoir jouer un blues. Et Miles Davis, quand il engageait un musicien, pour l'engager, il ne fallait pas qu'il lui déverse son CV ou quoi. Il lui faisait jouer un blues. Et donc le blues, c'est la base du jazz, mais c'est aussi la base de la pop. Sans blues, il n'y a pas les Rolling Stones, il n'y a pas Mick Jagger et il n'y a pas Eric Clapton non plus. Ce blues est aujourd'hui extrêmement vivant. On le voit avec cette tournée du Chicago Blues. Ces jeunes musiciens, Stephen Hull, il a 25 ans. Son batteur, il a 25 ans. Le bassiste, il en a 26. Enfin, il y a tout un son aujourd'hui qui est très, très actuel et qui est très vivant, qui est très vivifiant. Et qu'on a ce plaisir aussi que... On a retrouvé quand même dans les archives le premier concert du Chicago Blues. C'est parti d'ici, le Chicago Blues, avec M. Morgantini, avec la famille Monestier et la famille Tricard. On a retrouvé premier festival de blues. Vous l'avez vu, cette affiche, avec John Lee Hooker. Incroyable quand même. John Lee Hooker, c'est le Mick Jagger du blues. Hein,
exactement. Et avec Lowell Fulson également, qui est un petit peu moins connu, mais qui était un bluesman formidable. Et voilà, une belle affiche qui a été conservée dans son jus, qui fait partie de cette exposition. Comment s'est faite cette exposition, peut-être également avec au cours de Jacques Gasser, dont on peut parler?
Oui, Jacques Gasser en est à l'initiative. Et Jacques Gasser a travaillé d'abord avec son cœur, son émotion, ses compétences et son envie. Et donc, ça a été vraiment un grand bonheur de travailler avec Jacques. Il a travaillé de façon complètement libre et indépendante avec le soutien de la médiathèque de Pau. Donc, il nous délivre des photos historiques, des photos qui ont été prises soit dans les concerts, soit chez Monsieur Morgantini, dans son intimité aussi avec des vidéos. Et on voit Morgantini chez lui, même danser... au milieu de ses amis, avec Nico Wayne Toussaint, qui est aussi un des héritiers blues.
Ça, c'est important, parce que sur Pau, il y a une scène vive du blues. On peut citer également Michel Foison, Gladys Amoros. Il y a également les Super Soul Brothers, il y a Misby and the Bullfrogs. Il y a des jeunes musiciens qui continuent à faire perdurer tous ces beaux souvenirs qu'on voit accrocher ici dans la médiathèque. Le blues, musique vivante, c'est plus que jamais une vérité sur Pau.
Oui, c'est... En fait... Ça a été relativement simple de ramener le Chicago Blues au bercail, finalement, c'est-à-dire à Pau, puisque c'est parti de Pau. Mais on a testé un petit peu avant. Justement, grâce à ces musiciennes et musiciens que vous citez, j'ai discuté un petit peu avec eux, on a échangé un petit peu. Je leur ai demandé, vous pensez que ça pourrait marcher, etc. Mais bien sûr, mais eux, ils jouent dans les clubs, et puis ils jouent dans le monde entier, même aux États-Unis. D'ailleurs, Nico Wayne Toussaint, entre autres. Les Super Soul Brothers, ça sonne vraiment super. Et Misby, on l'a en première partie de Thomas Dutronc au Zénith au mois de mai. Donc, il y a ce son du blues qui est ici à Pau, cette envie qui fait que ça a été relativement simple et le public est venu tout de suite. Donc à partir du moment où le public vient tout de suite, à partir du moment où même les musiciens du Chicago Blues qui sont venus faire leur showcase, on leur demande et ils viennent hors contrat, je dirais, pour célébrer ce moment, ben, on se dit qu'on est là où on doit être à ce moment-là et qu'on fait ce qu'on devait faire et que cette musique du blues, elle n'est pas prête de s'arrêter. dans le monde, bien sûr, mais en particulier à Pau.
Alors, pour prolonger cette réponse, on assiste actuellement au premier mois du blues à Pau. Est-ce qu'il y aura un deuxième mois du blues à Pau ? C'est un petit peu tôt pour en parler, parce que le bilan n'est évidemment pas tiré, mais est-ce que c'est déjà une envie, quelque part ?
Moi, j'en ai très envie, mais c'est à la médiathèque de nous le dire, puisque tout ce mois du blues à Pau, il est gratuit. Tout est libre d'accès et c'est organisé par la médiathèque de Pau. Donc on peut se renseigner, c'est ça qui est formidable. Il y a des conférences, c'est des endroits où on peut faire des recherches. Évidemment, dans cette exposition, il y a des perles à découvrir. Et ici, il y a tout pour se renseigner sur le blues. Donc oui, j'espère qu'il y aura un deuxième mois du blues à Pau. Mais c'est nos amis de la médiathèque de Pau qui l'ont concocté cette année. Eh bien, on verra si l'année prochaine, ils seront à même de l'en proposer.
En complémentarité, bien sûr, avec toute l'organisation de ce qui va pouvoir se passer au Foirail, ce qui s'est passé hier soir et ce soir, donc avec l'avenue de ce Chicago Blues Festival, dont l'organisation n'est pas due à la médiathèque. Mais
aujourd'hui, je m'engage. Vous savez que je travaille également à Nîmes. Et à Nîmes, depuis la première année, nous faisons venir le Chicago Blues Festival depuis sa première édition. Il est venu donc 54 fois. Et je vous garantis que tant que je serai ici à Pau, en tout cas, que j'aurai ce bonheur de travailler pour le public de Pau et pour la ville de Pau qui organise cette saison de jazz à Pau, eh bien, il y aura le Chicago Blues Festival programmé sur cette première semaine de décembre. Voilà, donc déjà l'année prochaine, vous pouvez être sûr que le Chicago Blues Festival, s'il tourne, et je l'espère bien avec l'équipe de Guillaume Tricard, eh bien, si Guillaume Tricard continue à faire tourner ce Chicago Blues et à proposer des si beaux plateaux, ben, évidemment, on les accueillera.
Stéphane Joyon, merci. On peut citer quelques-unes des manifestations qui vont égrener la fin de l'hiver et puis le début du printemps 2025 à Pau, avec notamment cette soirée du 29 avril avec Thomas Dutronc et Miss Bee and the Bullfrogs. À quoi est dû ce choix de première partie de Miss Bee pour justement ouvrir pour Thomas Dutronc ? Est-ce qu'il y a comme ça une espèce de passage entre le jazz et le blues ? Quel est le message ?
On avait envie de présenter quelque chose de différent. On n'avait pas envie de présenter, je sais pas, un disciple des Dutronc en première partie de Thomas. On avait aussi envie de présenter une femme.
Travaillant sur Nîmes, vous devez sûrement être en contact avec pas mal de personnes de la communauté gitane qui eux aussi s'y connaissent en jazzman ou peut-être.
C'est vrai, mais on avait envie d'avoir quelque chose de très différent.
D'accord.
Et d'avoir aussi une artiste, une femme paloise, une jeune femme paloise qui étudie encore au conservatoire de Pau, le saxophone, et de présenter au public quelque chose de made in Pau. Puis c'est vrai que Miss Bee and the Bullfrogs, c'est très, très, très bon. Et donc d'offrir la possibilité à ce groupe palois de jouer au Zénith, à domicile, et on le voit même ici avec Nico Wayne Toussaint, quand vous jouez à domicile, il y a deux trucs. Soit vous êtes un peu intimidé parce qu'il y a votre famille, soit vous faites comme la section paloise, et à domicile, en rugby, ils sont redoutables. Et donc je pense que c'est le cas de nos musiciennes et musiciens, et ça va être le cas donc de Miss Bee and the Bullfrog, qu'il faut absolument découvrir le 29 avril, première partie de Thomas Dutronc.
Stéphane Cochoyan, merci beaucoup. Et puis encore bravo pour tout ça.
Merci beaucoup. Merci à vous et profitez bien.
Merci.
I love you to your
C'était l'interview de Stéphane Cochoyan et puis un titre de Miss Beyond the Bullfrogs avec le saxophoniste Sax Gordon, Focus on What Worth It, sur l'album Summer Solstice en 2022. Seconde interview avec Luc Morgantini, le fils de Jacques. Nous évoquons la jeunesse du label MCM, fondé par sa maman Marcel Morgantini et avec qui il a enregistré lors de ses expéditions dans Chicago de 1975 à 1977 pour capter les musiciens sur le vif. Et puis l'œuvre de Jacques Morgantini en écho au travail de Jean-Marie Monestier et de Didier Tricard, ami de Luc, dont le fils Guillaume Tricard continue de creuser le sillon. Une interview illustrée par l'artiste à la fois subtil et tellement attachant qu'était Luther Johnson, Snake Boy Johnson, qu'on écoutera dans un titre inédit de 1975, capté par Jacques Morgantini. Avec Luc Morgantini, propre fils de Jacques, Jacques Morgantini qui a laissé beaucoup de choses, on se rend compte encore aujourd'hui à Pau avec cette exposition consacrée à une partie de son œuvre, à laquelle tu as largement collaboré, Luc, parce que il y a un certain nombre d'enregistrements des années 70, sans refaire toute l'histoire, mais qui sont dus à ta maman et à toi-même.
Ma mère qui était la productrice, voilà, qui a financé cette expédition à Chicago, et en 75, 76, 77, on a fait des sessions d'enregistrement dans les clubs où les musiciens noirs jouent, et donc dans des quartiers où n'allaient pas les blancs à l'époque. Mais comme on leur proposait de les enregistrer sur leur lieu de travail et que certains n'avaient encore jamais fait de disque, ils ont tous été d'accord et ils nous servaient d'escorte quand on allait dans ces quartiers difficiles, quoi.
Alors justement, ça m'amène une question, parce que c'est vrai que dans l'émission, on a écouté depuis de nombreuses années les enregistrements MCM, du moins une bonne partie. Je crois qu'il y a eu 17 albums
17
en tout,
albums, qui ont été édités. 17 fonds propres.
Et alors, il a fallu être cornaqué par quelqu'un. Comment ça a commencé, cette histoire de rencontre avec les bluesmen de Chicago?
Alors, c'est ma mère qui est à l'origine de tout ça, aussi aidée par mon père, bien sûr, mais c'est quand même vraiment elle le moteur. Elle avait hérité de son propre père, et au lieu de dépenser de l'argent dans des frivolités, elle a dit « je vais financer l'enregistrement de musiciens de blues de Chicago qui ne sont pas connus, voilà, et, ou qui n'ont pas le succès qu'ils méritent ». Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a enregistré le premier disque de Jimmy Johnson, qui n'avait jamais été enregistré avant, et qui a lancé sa carrière, finalement. Voilà. On a enregistré Magic Slim, on a enregistré, enfin, une quinzaine d'artistes différents.
Alors, comment est-ce que vous les avez découverts? Et Jimmy Johnson a été le premier, peut-être? Ou Magic Slim?
On ne les a pas découverts, c'est que Jean-Marie Monestier, qui organisait les tournées du Chicago Blues Festival, à l'époque, avait déjà des contacts un peu partout, en particulier à Chicago. Et il y avait aussi le patron du label Delmark, qu'on avait rencontré avant, par l'intermédiaire de Monestier, et qui nous a mis en contact avec un certain nombre de musiciens. Quoi, voilà.
Si on se retranspose dans les années 75, 76, 77, oui, et si on fait un parallèle avec ce qui se passe maintenant dans l'industrie du disque ou dans l'industrie de la musique, qu'est-ce qui a changé au fond, par rapport aux conditions d'enregistrement, par rapport au business, on va dire?
Merci pour la question. Je n'en sais rien, je n'ai jamais fait de business avec la musique.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, On m'a confié la responsabilité d'enregistrer ces musiciens avec un agra et en faisant attention à la balance entre tous les instruments, etc. Je me suis exécuté avec grand plaisir, évidemment, de voir ces musiciens dans les clubs, mais j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans hein, quand j'ai fait ça. Voilà. Donc, et moi, j'ai fait une carrière scientifique, je n'étais pas du tout dans la musique. Donc je n'ai aucune idée pour répondre à cette question sur le business du blues en particulier.
Est-ce qu'il y a des souvenirs en particulier, que ce soit des gens rencontrés là-bas ou rencontrés chez ton père, qui te remontent à la surface, des noms d'artistes en particulier?
Luther Georgia Boy Johnson, qui était second guitariste chez Muddy Waters dans le temps, a été un gars extraordinaire avec qui j'ai vraiment sympathisé. Et à tel point qu'à la première tournée, quand il était venu à la maison, parce que mes parents avaient l'habitude d'inviter les musiciens après les concerts à manger un lit de cassoulet ou des choses qui leur faisaient bien plaisir, parce qu'ils disaient que c'était de la soul food, comme la nourriture du sud, en fait, des États-Unis. Ils aimaient bien ça, justement.
Le cassoulet est au sud-ouest, le jambalaya est au sud des États-Unis.
Exactement. Et bien, Luther Johnson m'a demandé si j'avais une guitare. J'en avais une à l'époque, une guitare sèche que j'ai abandonnée vu mon absence de talent absolu. Autant je sais bien enregistrer, bien équilibrer entre les différents micros, etc., autant j'ai jamais réussi à plaquer 3 accords correctement. Donc je lui ai dit, oui, j'ai une guitare sèche là, qui est une guitare de débutant. Et il m'a dit, viens, je vais jouer un blues pour toi. On est allé dans ma chambre, en fait. Moi, j'avais un petit magnétophone avec des toutes petites bobines et il a joué un blues qu'il a improvisé là, comme ça on n'était que tous les deux, quoi. Et là-dessus, mon père, qui n'avait voyait plus Luther Johnson, commence à chercher un peu dans la maison. Il vient dans ma chambre, il dit « Mais je vais l'enregistrer là maintenant !» Et hop, il a sorti de Revox et tout, donc là je ne pouvais pas lutter évidemment. Et il a eu comme ça des enregistrements de Luther Johnson à la maison, accompagné par les As, si je me souviens bien.
Les Assises, voilà, exactement. Ouais. Question Luc Mangantini, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'œuvre de Jacques et Marcel, et surtout, dans quel but pour les générations futures? À quoi tout ça va-t-il servir dans les années suivantes?
Ce qui est très important de comprendre, c'est que mon père a eu un coup de foudre avec le jazz d'abord, à la Libération, après la Seconde Guerre mondiale. Et il a mis sur pied un réseau de correspondants aux États-Unis avec lesquels il échangeait des disques. Il envoyait des disques d'Edith Piaf et il recevait des disques de Lionel Hampton. Voilà. Donc le deal n'était pas trop mauvais, des 78 tours hein, bien sûr à l'époque. Et puis, il s'est passionné pour cette musique toute sa vie. Et ce n'était pas son travail, hein, je rappelle. Il ne faisait pas partie, justement, du business de la musique, quoi. Et après, il avait rejoint le Haut Club de France, Duc Panatier. Et puis après, il a fondé le Haut Club de Pau. Et il a organisé, en collaboration avec Jean-Marie Monestier, il a organisé des concerts à Pau, beaucoup. Quasiment toutes les tournées que Jean-Marie Monestier mettait sur pied. Voilà. Et donc, ça a laissé quand même, je pense, un héritage important pour cette région et pour la ville de Pau. Et avec l'enthousiasme qu'il a levé, son sens du partage, il a fait des causeries, par exemple, où il arrivait avec des mallettes pleines de disques et puis il passait des disques, il expliquait ce que faisaient les musiciens, qu'est-ce qu'on pouvait apprécier dans leur musique. Enfin, il a répandu un peu la connaissance du jazz d'abord et du blues ensuite, dans tout le sud-ouest.
Et il s'intéressait également aux musiciens d'ici. Il y a beaucoup de musiciens qui sont passés par chez lui, qui
Absolument.
Ont été enregistrés par lui.
Alors, je dirais que ça, c'est venu un peu dans une...
Sur le tard.
Voilà, sur le tard, parce qu'il était très orienté musicien noir américain.
Voilà.
Jazz traditionnel, etc. Et donc, la connaissance, on va dire, des musiciens locaux n'est venue que plus tard, mais il a beaucoup apprécié des gens, évidemment, comme Michel Foison, Gladys Amoroth et Nico Wayne Toussaint, qu'on va entendre ce soir en première partie du Chicago Blues, qui sont d'exceptionnels musiciens qui ont été d'ailleurs primés. Nico et Michel ont été primés aux États-Unis.
À Memphis, tout à fait.
Voilà.
Oui, exactement. Toute dernière question, Luc Mangantini, que pensez de cette espèce de raccourci avec la nouvelle génération du Chicago Blues qui va jouer ce soir, qui a joué déjà hier soir, et avec Nico Wayne Toussaint et son quartet en première partie? Est-ce que c'est une espèce de façon de boucler la boucle?
Ah ben, moi je trouve que c'est très intéressant parce que évidemment le groupe de Nico, en particulier avec Michel Michel Poison est absolument incroyable. Ce sont d'excellents musiciens et qui sont vraiment imprégnés du blues. Ils ne trahissent pas du tout cette musique. Et le fait qu'il y ait à nouveau, grâce à la famille Tricard, hein, c'est Guillaume Tricard, donc le
c'est
fils
qui s'en occupe de Didier
Tricard, qui était mon ami il y a fort longtemps. On était allé à Chicago ensemble d'ailleurs sur une des trois années. Je connaissais très bien Didier. Et ben, je trouve que c'est bien parce que, alors j'attends de voir ce soir quel va être le niveau des musiciens américains. Mais j'ai eu un petit extrait là, dans la médiathèque, là où nous sommes, et ça me semblait très bien se présenter. Voilà.
Luc Mongrantini, merci beaucoup.
Avec mon plaisir.
À ce soir en spectateur, hein, devant le Chicago Blues Festival 2024. 55e du nom, hein, 55e.
Oui. Et c'est
de cette tournée.
L'année dernière, quoi, le Chicago Blues Festival.
Il y a eu 2022 aussi.
Ah oui, ouais, ça je l'avais raté. Ouais.
Bon, merci, bien. À bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
stop, don't you let me know.
Thank you. C'était l'interview de Luc Morgantini, le fils de Jacques. Et puis juste après, c'était Luther Snakeboy Johnson avec Why Don't You Left Me, qui fait partie des archives de Jacques Morgantini, live à Pau, en 1975, enregistré par ses soins. Troisième interview avec Arnaud Morgantini, le petit-fils de Jacques. Nous parlons souvenirs, amour du blues, transmission et partage de cette belle musique universelle. Le blues doit perdurer, c'est ça qu'il faut retenir. Une interview qui est illustrée par un titre de Nico Wayne Toussaint, qui aura animé le vernissage de l'exposition avec Dave Herrera et Stephen Hull, présent à Pau. Avec Arnaud Morgantini, c'est bien ça, le petit-fils de Jacques Morgantini, bonjour.
Absolument, bonjour.
Voilà, pour la radio, en quelques mots, on est à la fin de cette présentation de l'exposition, ce vernissage, exposition consacrée à Jacques Morgantini. Quelles sont vos impressions par rapport à cette présentation de ce qu'il a fait et puis l'intermède musical dont on a bénéficié?
Très très agréable et très agréablement surpris aussi là de toutes ces belles photos que je reconnais forcément, qui étaient pour certaines dans la maison de grand-père, et notamment là le fait qu'il y ait des musiciens live, bah, ça me rappelle à quel point, je vais citer grand-père là-dessus encore une fois, mais c'est une musique qui est faite pour être jouée en live, une musique qui est faite pour être partagée, et du coup bah, forcément très agréable de voir des musiciens qui animent toutes ces belles photos et tous ces souvenirs qu'on a avec grand-père. Donc non, très content d'être venu du coup avec ma compagne de région parisienne pour la journée, vraiment on a fait l'aller-retour et on est très content de ça parce que bah, forcément toujours curieux de voir, d'apprendre de nouvelles choses, même si grand-père nous en a passé c'est un maximum, mais c'est vrai que revoir l'enregistreur qu'il utilisait, revoir les photos qui étaient au-dessus de son bureau, il y a des photos de mon père également,
Luc,
donc non, c'est quand même très sympa, et surtout très très agréable de pouvoir échanger avec beaucoup de gens qui se déplacent. De toute façon, grand-père a fait déplacer beaucoup de gens toute sa vie, de Chicago à Pau, ou même sur les conférences qu'il pouvait faire, donc non, je suis très content de ces moments de partage autour du blues, des choses qu'il adorait faire, donc ça perdure.
Et le fait que ça perdure, effectivement, et puis que peut-être ça puisse, tout ce travail-là puisse être transmis aux futures générations, qu'est-ce que, personnellement, ça vous fait, Arnaud, petit-fils de Jacques Morgantini, encore une fois?
C'est une bonne chose que ce soit transmis, parce que c'est une musique qui fait du bien, une musique qui a fait vivre jusqu'à plus de 90 ans mon grand-père, et qui fera vivre encore un maximum de personnes. Là, on le voit avec le Blues Festival qui va jouer ce soir, les artistes qui sont venus, c'est une nouvelle génération. Et bah, ils savent jouer, ils savent transmettre. Il faut perdurer cette musique, il faut la transmettre, il faut que les jeunes apprennent, c'est très important.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
If I make it to Memphis, I'll be glad. If I make it to Memphis, I'll be glad. Well, I might walk or take a cab, hope on a Greyhound bus and ride. If I make it to Memphis, I'll be glad. If I make it to Memphis, I'll be glad. If I make it to Memphis, I'll be glad. Well, I might walk or take a cab, hope on a Greyhound bus and ride. If I make it to Memphis, I'll be glad. If I make it to Memphis, I'll be glad.
C'était l'interview d'Arnaud Morgantini et puis ce court titre Memphis qui débute l'album From Clarksdale With Love de Nico Wayne Toussaint. Quatrième interview avec ensemble le père et le fils, Philippe Charlot et Armand Charlot, conférenciers, musiciens, travaillant de pair pour faire connaître et populariser le blues des pionniers, celui d'avant-guerre et même parfois du début du XXe siècle, par qui tout a commencé. Une conférence passionnante et une bande dessinée, Delta Blues Café, récemment primée à Angoulême. On touche du doigt un indéflectible et émouvant lien père-fils entre Philippe et Armand Charlot au service de la culture blues et du bonheur de partager la musique en famille dans une belle causerie musicale. Une interview illustrée par le légendaire Mississippi Fred McDowell et puis ensuite Gladys Amoros et Michel Foison, des artistes palois de renom qui ont donné le goût du blues justement à Philippe Charlot.
Voilà, petite interview avec donc la famille Charlot, vous dites ça ?
Oui, c'est ça, hein, exactement, père et fils.
père et fils, avec deux musiciens, un conférencier, peut-être un futur conférencier, je ne sais pas. En tout cas,
on aime bien raconter des histoires.
Il le fait aussi, en fait. Il est pas dans le même domaine, mais il le fait aussi.
Très bien. Et donc, c'est comment le fait de... Alors déjà, j'ai une première question, c'est un petit peu personnel. C'est quoi de jouer avec son fils et c'est quoi de jouer avec son papa?
Alors, jouer avec son fils, c'est beaucoup d'émotions. Alors maintenant, on le fait un peu de temps en temps. En fait, je l'emmerde dès que j'ai l'occasion. Donc, et à chaque fois, il répond avec beaucoup de gentillesse. Mais oui, c'est assez émouvant. Voilà. Donc, surtout quand la musique fait tellement partie de notre vie, ce qui est notre cas, on a vraiment l'impression de partager l'essentiel. C'est comme passer devant les fourneaux avec ton fils ou ta fille, si ton truc, c'est la bouffe, tu vois. Voilà, nous, c'est la musique. Donc, c'est vraiment, on se dit, tiens, bah, voilà, on n'aura pas tout perdu. On n'aura pas trop perdu notre temps.
Même question pour Armand.
Je pense que la musique, c'est effectivement comme un bon repas. C'est des bons prétextes pour se retrouver ensemble et partager quelque chose. Et il se trouve qu'on se voit quand même plus souvent quand on fait de la musique que quand on n'en fait pas. Donc
une bonne façon de se passer les plats, entre guillemets.
Oui, c'est ça, exactement.
Et donc,
sans servir la soupe.
Sans servir la soupe, parce que ce n'est pas de la soupe, on est d'accord que c'est bien du blues.
Exactement.
Du blues acoustique, du blues traditionnel, du blues... du Delta, c'est un peu dans cet univers-là que tu nous as emmené à travers cette conférence. Cette conférence que tu es amené à faire régulièrement, un petit peu partout.
Oui, en fait, c'est une proposition que j'ai faite aux médiathèques et au festival de bande dessinée. C'est une bande dessinée à la base et qui parle un peu des pionniers du Delta Blues que j'évoque dans ce livre Delta Blues Café, qui est une fiction. Mais dedans, il y a des références historiques. Donc voilà, j'ai proposé cette formule-là, comme je suis musicien, que j'aime bien parler de BD, que voilà. Donc j'ai proposé, ça s'appelle ça une causerie musicale. Alors ce n'est ni un concert ni une conférence, c'est un peu entre les deux, c'est détendu dans la mesure du possible, gai avec de l'allant, j'essaye. Et voilà, donc j'ai démarré ça il y a un mois maintenant, et je vais faire tourner ça au moins un an. Avis aux amateurs, si vous voulez participer à l'aventure, il suffit de me contacter sur Facebook.
Très bien, et donc cette autre activité de scénariste de bande dessinée que tu exploites depuis pas mal d'années, j'ai l'impression.
Oui, ça fait 13-14 ans.
Avec plus de 30 livres sortis.
Oui, peut-être pas une quarantaine, peut-être.
Presque une quarantaine.
À force. C'est plus long pour les dessinateurs, les scénaristes,
toujours avec le même dessinateur.
J'ai tout un tas de dessinateurs avec qui je travaille, qui sont devenus des amis pour la plupart. Et voilà, je ne parle pas toujours de musique, mais ce projet-là me tenait à cœur. J'avais fait une série qui s'appelait Bourbon Street, il y a 12 ans, qui se passait à la Nouvelle-Orléans, dans le milieu du swing, du jazz, des vieux musiciens de jazz, qui tentaient un dernier baroud d'honneur. Et là, ça fait longtemps que je voulais faire autour du blues. Voilà, j'osais pas trop me lancer. Et en fait, j'ai passé du temps avec Gladys Amoros et Michel Foison, que vos auditeurs connaissent sûrement.
Mais bien sûr.
Et c'est eux qui m'ont donné le virus du blues, en fait, aller voir jouer, à les entendre parler, etc.
Avec un mix entre fiction, réalité, biographie. Parfois, la biographie des bluesmen, elle est un peu obscure parce que les bluesmen, c'est un peu des menteurs. Parfois, ils racontent des trucs. Soit qui les arrangent, soit qui vont les déshonorer mais parce qu'ils aiment ça. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait une mixture entre réalité historique, entre guillemets, et puis, l'envie de raconter
Oui, alors après, la fiction, ça c'est assez. Disons que maintenant, j'ai ma façon de faire qui me. Voilà, j'ai mes repères, donc je détermine vite une ligne, et puis je laisse mes personnages un peu avancer de leur propre volonté, une fois que je les ai assez nourris. Et après, en y mélangeant de la réalité et des anecdotes que j'ai entendues, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je ne sais plus trop où est la réalité et la fiction, oui, c'est sûr.
Ouais. Armand est également musicien, on l'a bien compris, conférencier, et puis avec l'envie peut-être de suivre les traces du papa ou de marquer des traces sur d'autres territoires musicaux ou d'autres territoires culturels de manière générale.
Alors mon milieu, c'est plutôt la chanson française, mais toujours teinté par du blues, par de la musique du monde. Et c'est pour ça qu'assez naturellement, on se retrouve sur des codes qui sont ceux du blues, de musique un peu plus jazz, un peu plus américaine. Et c'est toujours des super moments. Ce qui est sûr, c'est que ce soit par la musique ou par le fait de raconter des choses, l'idée, c'est toujours de rester dans des histoires.
Et le partage, ça, c'est quelque chose qui me paraît important chez vous. La façon dont vous avez offert ce moment aux gens... C'est avant tout partager, c'est le plaisir de partager.
Oui, c'est un peu une façon d'être au monde, un peu, et puis ça devient un peu une seconde nature. Moi, je fais ça depuis longtemps, et du coup, leur maman aussi fait ça depuis longtemps, dans d'autres domaines.
Bizarrement.
Et oui, et du coup, on s'aperçoit que nos fils le font. On a un autre fils qui vit au Santiago du Chili, et en fait, il fait pareil là-bas. C'est une façon de... Voilà, quand on se met à se passionner pour quelque chose, et ben on pousse la chose, on travaille, et puis un jour, on se retrouve sur scène, voilà, aujourd'hui, à parler des pionniers du blues. J'aurais jamais pensé ça il y a quelques années. En jouer, oui, avec mes compétences. Mais voilà, je me retrouve dans cette situation-là. Mais Armand, lui, il a des conférences absolument sur des sujets absolument hallucinants.
Philippe Charlot, Armand Charlot, comment est-ce qu'on fait pour se procurer ce dernier ouvrage?
Alors, le Delta Blues Café, on le trouve dans toutes les bonnes... dans les librairies spécialisées. Et dans les Leclerc, dans les Parvis, vous voyez, dans les parties...
Et sur Internet, peut-être aussi?
Sûrement. Je pense que oui, sans doute par Amazon, j'imagine. Ouais, j'imagine. Mais il vaut mieux aller chez les libraires. Mais bon, après, si chacun fait comme il peut, comme il veut.
Bon, alors, pour l'amour de l'art et de la musique, merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, Marc.
À bientôt.
You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when they long, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on his beat. But when in love, get ready, you got to move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when it's long, get ready.
C'était l'interview de Philippe Charlot et Armand Charlot, le père et le fils. On a écouté ensuite en 1966 chez Arolie Records un titre de Mississippi Fred McDowell, You Got to Move. Et puis là vient de se terminer Gladys Amoros et Michel Foison avec l'harmoniciste Nico Wayne Toussaint, Good Morning sur l'album Golden Moments. Cinquième interview avec Sébastien Loup et Michael Roudier qui tiennent l'incontournable Silver Wolf Music à Lons près de Pau. Musiciens passionnés, amis soudés, ils ont créé un endroit où on peut acheter ou louer des instruments neufs ou d'occasion, les faire réparer, apprendre la musique, répéter et également enregistrer dans des conditions exceptionnelles avec un matériel vintage sélectionné. L'association Musique Family permet de réunir les profs de la région, dont Michel Foison et Kevin Delard, et pas moins de 400 élèves, tous âges, tous niveaux, tous styles, avec une pédagogie sur mesure basée sur le plaisir. Sébastien Loup et Michael Roudier sont musiciens. Ils parlent également de leurs formations respectives. On y évoque également Jacques Morgantini, que tous deux connaissaient bien. Une interview illustrée pour finir par le grand T-Bone Walker.
Voilà, on est ici à Silver Wolf Music, vraiment dans les suburbs hein, de Pau. C'est sur la petite commune de Lons, pas le Saunier, hein, Lons à côté de Pau, voilà.
64.
Voilà, avec Michael et Sébastien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Marc.
Bonjour Marc.
Très heureux d'être là et puis de voir que ben, il y a un superbe, d'abord un superbe magasin de musique ici sur la commune de Pau, avec j'imagine tous les musiciens en clients. Déjà ?
Tous les musiciens, je sais pas, mais on essaye de...
Une bonne partie de musiciens, des musiciens, oui, amateurs, ouais. Professionnels, asso, collectivités, etc.
Voilà. Alors ici, c'est pas seulement un magasin de musique, c'est également un endroit où on peut répéter, où on peut enregistrer. Comment est-ce qu'est né tout ce projet et puis finalement ces trois activités-là, quand et pourquoi ?
Bah, pourquoi ? Alors au départ, on a commencé, on avait repris un petit magasin au centre-ville de Pau, qui était trop petit, problème pour se garer, etc. Donc on a cherché un local en dehors de Pau et on a trouvé ce local qui était un peu grand, mais on avait, à force d'avoir des demandes de gens qui voulaient répéter, qui trouvaient pas des locaux, et surtout des gens qui cherchaient des cours de musique et qui trouvaient pas de prof. Voilà, on s'est dit avec Mika, ben on va créer un espace avec une association qui s'appelle Music Family, qui permet donc de dispenser des cours. Donc on héberge, nous, des profs qui dispensent des cours. Donc on a à peu près 400 élèves.
400 élèves, c'est incroyable. Il n'y a pas que la ville de Pau, il y a forcément 30 kilomètres aux alentours, j'imagine, au moins.
Il y a des gens qui viennent de loin pour prendre des cours, effectivement, mais on fait venir alors tout âge, tout niveau, tout style. Voilà, c'est un peu le concept. Donc, on va avoir des petits dès le plus jeune âge, éveil musical, des ados, des adultes, et on a même des retraités qui se lancent dans la musique et qui veulent apprendre.
Donc, ça veut dire pas seulement des musiciens en herbe qui veulent travailler en groupe, mais pour qui la pratique de l'instrument est d'abord un loisir.
Exactement. En fait, l'idée, c'était de proposer quelque chose un peu sur mesure, donc avec un apprentissage soit de débutant ou à l'inverse du perfectionnement dans tel ou tel style. C'est pour ça qu'on accueille par exemple Michel Foison qui vient donner des cours tous les lundis chez nous pour se perfectionner dans le blues ou d'autres profs dans d'autres instruments.
Et Kevin Denard également.
Exactement. Oui. Kevin Denard qui est là aussi, lui qui est à résidence toute la semaine, qui est là, qu'on peut retrouver du lundi au jeudi, je crois.
Comment s'est faite la connexion avec les différents enseignants pour savoir qui... Il a fallu peut-être prendre la température auprès des clients éventuels, savoir quels étaient les besoins, je ne sais pas.
Oui, c'est-à-dire qu'on est un peu, nous, le relais de toutes les demandes. Donc un client peut venir ici pour acheter un instrument, se renseigner, mais souvent il recherche des cours. Ou alors nous, on était force de proposition pour lui proposer des cours. Et le but, c'était vraiment de répondre sur toute l'offre possible, tous les style et surtout d'axer ça sur une pédagogie sur mesure. C'est vraiment du sur mesure et basé sur le plaisir.
Il y a une autre activité, c'est l'enregistrement. Alors il y a plusieurs autres endroits pour enregistrer ici. Et là, vous avez pris le parti, je crois, d'un équipement véritablement professionnel avec un matériel que personne ne possède dans la région. Hein.
Voilà, on est parti sur plutôt d'un équipement vintage, donc sur une vieille console de la fin des années 70.
Qui aurait appartenu au Rolling Stone, alors.
Et voilà.
Incroyable.
Donc, à l'époque, début 80, je pense, c'était cette époque-là. Et ensuite, avec des préamplis à lampe des années 50-60, et un gros backline de matériel ampli des années 50-60 aussi, des vieilles batteries, des orgamons, des cabines Leslie, etc. Et avec une grande live room qui permet d'accueillir pas mal de monde, de faire des prises live.
Ça veut dire qu'on est capable d'accueillir des musiciens qui sont même pas de la région, qui sont au niveau national, des gens qui peut-être en ont marre de raquer un peu trop sur Paris parce que voilà, les prix ont flambé là-bas, et de retrouver un matériel professionnel à un prix qui va leur être peut-être plus abordable, je ne sais pas.
Exactement, c'est exactement ça. On avait eu un groupe anglais donc qui s'appelle Mama's Gun qui était venu enregistrer 4 titres comme ça pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, et c'est vrai qu'ils ont été séduits par les conditions d'enregistrement, le résultat aussi, la mise à plat juste après l'enregistrement, donc voilà, on est capable de répondre à ces demandes-là.
Et parallèlement à ça, donc on est dans le magasin, je m'aperçois qu'il y a à peu près toutes les sortes de guitares, que ce soit acoustique, électrique, basse, et puis un bon choix de cymbales. Enfin, tous les musiciens viennent acheter leurs cordes ici, on est d'accord?
Alors, nous, on est assez diversifiés, on est quand même orienté rock'n'roll, on va dire. Pas trop classique, on fait pas tout ce qui est vent, ni violon, même si on a une petite gamme de violons. Mais en règle générale, on fait tout ce qui est guitare, basse, batterie, accessoires, du clavier. On a un peu d'instruments de méditation. Et on fait surtout réparation, atelier de lutherie, location.
Occasion également ?
Occasion et neuf, tout à fait. On fait des reprises.
Des pots-ventes.
On essaie d'avoir du matos qui nous plaît, puisque nous, on est musiciens. Donc, on essaie de rentrer les choses sur lesquelles on a un coup de cœur. On vend ce qu'on aime. Clairement.
Alors respectivement, tous les deux, vous avez des projets musicaux, quels sont-ils ?
Alors, moi j'ai un petit projet, un duo avec ma fille de cœur, Folk Soul, à l'heure actuelle. Qui s'appelle Wolfie.
Voilà. Très bien.
Et moi je joue avec mon oncle, très blues, avec une section rythmique avec Julien Fugas et Rémi Granger, qui sont des musiciens de Pau, et donc plaisir.
Qui se produisent régulièrement avec Nico Wentusa, entre autres.
Exactement, pour ne pas le citer, donc effectivement, j'ai la chance de les avoir derrière.
Alors, il y a un gros, gros passé blues ici, et un gros présent blues sur la ville de Pau. En ce moment, c'est le mois du blues à Pau, en hommage, bien sûr, à Jacques Morgantini, qui aurait 100 ans cette année. Est-ce qu'il est venu ici, dans le magasin ?
Bien sûr, on le connaît très bien avec Sébastien, il est venu, il nous a accompagnés au lancement, enfin voilà, il était présent du début à la fin, je veux dire, de sa vie. On a toujours connu, côtoyé, on a joué chez lui, plein de belles expériences et de grands souvenirs avec Jacques.
Ben effectivement, moi j'ai des petits souvenirs assez forts parce que je pense que je fais partie des premiers qui ont connu Jacques et ici sur Pau et je crois même que avant de connaître Mika, j'avais un groupe et on avait été un des premiers groupes, je sais pas, c'est pas le premier à refaire un concert chez lui après les Illustres à Gand, voilà. Donc ça va refaire peut-être une vingtaine de concerts chez lui et c'est vrai que c'était assez mémorable.
Avec une pointe d'émotion que je perçois. Soit quand on évoque ça. Hein.
Alors, ouais, parce que je me souviens surtout d'un des premiers concerts, je sais plus si c'était le premier ou peut-être que c'était avec toi, Mika, je sais plus, où on avait un moment, on devait jouer devant un parterre, donc en général une trentaine de personnes, et puis au moment où j'allais commencer à jouer, il me dit Attends, Sébastien, je vais te raconter quelque chose là. À l'endroit où tu vas taper le rythme là avec ton pied, la dernière personne à avoir tapé le rythme, c'était Johnny Hooker, vas-y. Et là, je me suis effondré.
Effectivement, connaître un personnage comme pouvait l'être Jacques Morgantini, ça donne le vertige. Hein. Quel est le plus bel hommage qu'on puisse faire à ce monsieur ici, quand on possède un magasin de musique qui permet également la répétition de tous les musiciens de la région et puis d'enregistrer? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux?
Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux. Je voulais lui tirer mon chapeau parce que ce qu'il a fait pour le blues en général... C'est assez incroyable, quoi. Quand on connaît l'histoire de Jacques, on se rend compte que il a baigné dans le blues qu'on aime, quoi. Enfin, c'est vraiment ma musique. Quand je suis allé chez lui, j'ai vu des disques de T-Bone, des vieux John Lee Hooker, des enregistrements chez lui. Pareil, j'ai eu comme ça, j'ai eu le vertige, quoi. Je me suis dit, mais où c'est qu'on est? C'est hallucinant de voir. Et puis moi, je l'ai découvert comme ça, par hasard, avec Sébastien. Mais jamais j'aurais pu penser qu'il était à 10 minutes de chez nous, quoi. Clairement. Donc vraiment, voilà, je voulais tirer mon chapeau, quoi.
Oui, c'est pareil. Et c'est vrai que j'ai quelques anecdotes, et notamment un disque que j'avais chez moi de blues. Je crois que c'était ça. Moi, je me souviens plus de l'artiste, mais il y avait marqué Morgantini. Et, et un jour, je suis tombé sur un article dans Sud-Ouest, ou je sais plus, avec en dernière page sa trombine là, avec tous ces disques derrière. Et il y avait un numéro de téléphone, et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler. Et je l'ai appelé, et on s'est vu quelques jours plus tard. Il m'a invité à manger, et puis voilà, on est devenu.
Pour finir, tout en évoquant Jacques Morgantini, qu'est-ce que vous avez pensé du double DVD Mémoire de blues, édité et réalisé par Jacques Gasser?
Très bien fait, super hommage. Vraiment, moi, je me suis régalé en regardant. Vraiment, très sympa.
Bah, pareil, moi, c'est un DVD que je regarde régulièrement. Déjà parce que ça me rappelle de bons souvenirs, parce que les lieux, à Gand, ils n'avaient pas changé entre le moment où Fred Billot et compagnie étaient là-bas et le moment où nous, on s'y produisait. Donc, c'est vrai que c'est assez émouvant. Voilà.
Dernière question, comment est-ce qu'on fait pour venir chez vous? Je pense aux musiciens qui pourraient écouter l'émission et qui seraient tentés, pourquoi pas, de venir s'imprégner du lieu et pourquoi pas y enregistrer.
Alors, on est sur l'Once. Vous tapez sur Internet Silver Wolf Music, vous allez tomber sur l'itinéraire. Et on a surtout un site Internet vendeur en ligne. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site shop.silverwolfmusic.fr. On référence tout, on essaie d'être assez exhaustif. On a tout ce qui est matériel neuf, toutes les occasions, tout le vintage qu'on aime, donc n'hésitez pas à nous découvrir sur le net.
Mickaël, Sébastien, merci beaucoup à tous les deux et puis bonne continuation bien sûr.
Merci Marc,
à ta visite. À bientôt.
À bientôt. Thank you.
Let's have a natural ball. Cause when you're not happy, it ain't no fun at all. That's one thing for sure. There's nothing wrong with you that a good shuffle boogie won't cure. What might happen? That's why I love to sing.
C'était l'interview de Sébastien Loup et Michael Roudier, donc de Silver Wolf Music à Lons, près de Pau. Et puis vient de se terminer T-Bone Shuffle de T-Bone Walker. Nous étions en 1947 avec Bumps Meyer au saxophone, George Orendorf à la trompette, Willard McDaniel au piano, Bill Adnott à la basse et Oscar Bradley à la batterie. On se retrouve la semaine prochaine pour le second volet des interviews autour du mois du blues à Pau avec Jacques Gasser, Stéphane Andrieux, Dave Herrero, Stephen Hurl, Nico Wentoussin, Kevin Delard et également des extraits d'archives d'interviews de Jacques Morgantini, capté dans Sweet Home Chicago. Le blues est là et il va le rester. Salut, bye bye.